on the Rhine, the Parthenon and moments on the Hudson River line. How lovely it was. Thanks for the memory of rainy afternoons, swingy Harlem tunes, and motor trips and burning lips and burning toast and prunes. How lovely it was.
C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez. Vous êtes bien sur France Culture au dernier moment de notre série sur la crise en littérature. Nous sommes aujourd'hui avec Marie-Christine Lemardelet, professeure de littérature américaine à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Elle nous parle des raisins de la colère de John Steinbeck, dont voici un nouvel extrait, cette fois dans la voix de Pierre Fromont.
Et un homme affamé, sans gîte, roulant sans trêve parmi les routes, avec sa femme à ses côtés et ses enfants amaigris à l'arrière, voyant à l'abandon ces champs susceptibles de produire non des bénéfices mais de la nourriture, cet homme avait le sentiment qu'un terrain en friche est un péché, qu'un sol non cultivé est un crime commis contre des enfants affamés. Arrivé dans le sud, il voyait les oranges dorées aux branches, les petites oranges dorées suspendues au feuillage vert foncé. Et il voyait aussi les gardes armés de fusils surveillant les orangeries. Les gardes chargés d'empêcher un homme de cueillir une orange pour un enfant affamé. De ces oranges destinées à être jetées au premier signe d'une baisse de cour. Alors, les hommes armés de lances d'arrosage aspergent de pétrole des tas d'oranges, et ces hommes sont furieux d'avoir à commettre ce crime, et leur colère se tourne contre les gens qui sont venus pour ramasser les oranges. 1 million d'affamés ont besoin de fruits, et on arrose de pétrole les montagnes dorées. On brûle du café dans les chaudières, on brûle du maïs pour se chauffer. Le maïs fait du bon feu.
Alors, on l'entend dans cet extrait, Les raisins de la colère, Marie-Christine Lemardelet, c'est le roman de la crise, mais c'est aussi, au fur et à mesure du récit, l'histoire d'un crime, et même d'un crime monstrueux.
Oui, et dans cet extrait, ce qui n'apparaît peut-être pas, c'est la manière dont Steinbeck le dit, c'est-à-dire une manière impersonnelle. Il dit « there is a crime mm-hmm. », il y a un crime
a lieu. On évite de dire qui
voilà.
fait le crime.
Voilà, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la société devient une société anonyme. Il prend ça même littéralement, il n'y a plus de visage derrière, et donc ça devient monstrueux. Et ça, ce passage me fait penser que Steinbeck a commencé en écrivant des articles de journaux pour une revue de San Francisco, un journal de San Francisco, où il écrit des articles, mais vraiment des pamphlets, mais très bien documentés. C'est-à-dire qu'on dirait vraiment un journaliste d'investigation qui regarde combien gagnent les gens, combien sont morts, etc. Mais il y a par-dessus la documentation, un ton de dénonciation extrême. Mmh. Et notamment par rapport au gaspillage et par rapport aussi à la valeur des gens. C'est-à-dire, il met en relief le fait que on s'intéresse aux statistiques des morts, mais on ferait mieux de s'intéresser à comment nourrir ces gens et les empêcher de mourir. Enfin, il le dit à peu près comme ça, de manière simple, mais assez efficace. Et il reprend exactement ces termes-là dans le roman.
Donc il y a toujours cette dialectique entre finalement une approche assez scientifique, journalistique, voire même historique, et en même temps garder toujours en ligne de mire à quoi servent la science, l'histoire et le fait de rapporter les événements tels qu'ils se passent ici et là, c'est-à-dire à nourrir la vie, à nourrir l'humain. Mais il y a quand même toujours la science qui est derrière tout ça.
Oui, oui. Très jeune, Steinbeck s'est intéressé à la science de manière assez originale d'ailleurs, parce qu'il a fait des études, enfin plus ou moins.
Il a arrêté ses
Stanford,
études.
À Stanford, oui. Mmh. Il est quand même resté 6 ans, mais il n'a pas obtenu de diplôme, mais il a quand même suivi des cours de philo.
C'est ça qui compte, hein,
oui.
L'ancienne présidente de Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Est-ce que les étudiants
ça,
ont tous bien compris?
C'est vous qui le dites. Donc, il a suivi quelques cours, donc, mais très importants, justement, pour sa formation intellectuelle, en philosophie notamment. En littérature, et à un moment il s'est inscrit un cours en médecine pour la dissection des cadavres. Mmh. Alors son prof principal lui dit, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas, c'est pas du tout dans votre sujet, etc. Et il répond, I wanted to know more about people. Je voulais connaître les gens. Alors pour lui, connaître les gens, c'est ce côté, on ouvre, on regarde. Il y a vraiment la méthode expérimentale de Claude Bernard. Donc ça, c'est très jeune. Et après, ça a été, il a toujours eu cet intérêt pour la science, regarder au microscope, vraiment la science dure. Et il a rencontré un certain Ed Ricketts, qui était un biologiste marin, qui, en Californie, l'a aidé à étudier les fonds marins. Enfin, ils ont fait des études ensemble. Et je trouve que dans « Les raisins de la colère », il y a une façon de présenter les humains, un peu comme si c'était une espèce un peu plus évoluée que les mythes ou les fourmis.
Mais il y a même une certaine froideur de Steinbeck. D'ailleurs, dans ce que vous dites, on l'entend aussi. Connaître les hommes, c'est aller les voir se faire écorcher. Et on le retrouve un petit peu dans le roman. C'est d'ailleurs une critique qu'on lui a faite.
Oui.
Finalement, de voir les grands ensembles sans s'intéresser vraiment à la psychologie des personnages individuels, sans suivre réellement ces personnages profondément.
Alors ça, c'est tout un débat. Sur est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est pas un échec. Bon. Et par exemple, Claude Edmond de Magny, qui a écrit ce livre magnifique, L'âge du roman américain, qui a justement montré que chez certains auteurs comme Steinbeck, Hemingway, Dos Passos, Faulkner, il y a une attitude behavioriste, c'est-à-dire on n'entre pas dans la psychologie des personnages, on montre comment ils bougent, comment ils se comportent.
Mmh. On peut suivre un personnage quand même longuement.
Oui, et personnellement, moi je trouve que c'est une technique très intéressante, que ça a apporté de l'innovation dans l'écriture, et rien ne dit que la psychologie du personnage soit seulement la chose intéressante en littérature. Et dans le cas des raisins de la colère, je trouve que ça donne une force. Par exemple, au lieu de dire les hommes étaient inquiets, il décrit comment ils s'accroupissaient sur le sol, the squatting men. Ils s'accroupissent sur le sol, ils dessinent, ils réfléchissent en dessinant, en faisant des petits dessins dans la poussière. Je trouve que ça donne des images très fortes.
C'est du cinéma ?
Un peu, voilà. Mmh. Oui. Il y a quelque chose comme ça. Alors soit c'est vraiment véritablement le cinéma qui a influencé l'écriture, ou peut-être pas, c'est peut-être juste un moment de rencontre.
Alors, parler des raisins de la colère, c'est beaucoup parler du sujet du livre. Marie-Christine Lemardelet, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on parle de la crise, mais pour Steinbeck, c'est avant tout une œuvre d'art, une œuvre littéraire. Peut-être qu'il y a un malentendu justement là-dessus. Il y a une structure aussi de ce livre qui est une structure étonnante, peut-être pas aussi étonnante que celle dont on a parlé hier dans la trilogie USA de Dos Passos, mais ça s'en rapproche un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'art du roman de John Steinbeck ?
Alors, il y a une chose qui saute aux yeux, c'est la composition en chapitres narratifs qui racontent l'histoire d'une famille. Et les autres chapitres qu'on peut appeler intercalaires, lui les appelait généraux, qui donnent une vision plus universelle, à la fois de la nature, avec un grand N, parce que là il y a vraiment un sujet pour lui, et des humains, de l'humanité en général. Cette composition, à mon avis, est très intéressante parce que la disjonction apparente fait ressortir des liens. Et notamment, il y a par exemple des chapitres où on voit, on ne sait plus dans quel genre de chapitre on est. Mm-hmm. Par exemple, dans un chapitre intercalaire qui se passe à une station-service, on entend des voix, on se dit « Ah tiens, c'est les Jodes », et puis non, en fait, c'est le bruit des humains invisibles, anonymes. Et en cela, je trouve que c'est une création littéraire très intéressante.
Parfois, il y a aussi des personnages qui n'en sont pas vraiment, mais qui représentent un petit peu la doxa, ce qu'on entend dire, ce que pensent en général les gens. Je pense à Maë, la serveuse de la cafétéria, qui énonce un peu les clichés de la pensée moyenne. Je vous lis un extrait. « Maë établit le contact, souriante, irritée, prête à éclater, souriante tandis que son regard se perd dans un passé lointain, sauf pour les camionneurs. » C'est sur eux que repose la boîte. Où les camions s'arrêtent, c'est là que viennent les clients. Pas moyen de rouler les conducteurs de camions, ils s'y connaissent. Ils amènent la clientèle, ils s'y connaissent. Donne-leur du café pas frais et ils ne remettront plus les pieds dans ta boîte. Si on les traite bien, ils reviennent. Maë sourit de toutes ses dents quand elle voit entrer des camionneurs. Donc on n'est pas là vraiment à découvrir un personnage, on entend juste... La voix de ce qu'on pense en général dans ces cas-là.
Oui, et puis ce qui est amusant aussi, c'est que malgré tout le dégoût de Steinbeck pour le profit, il est quand même américain, donc il s'intéresse au commerce. Et là, on voit que la principale qualité de Maë, c'est que c'est une bonne commerçante.
Oui, mais elle ne comprend rien aux pauvres paysans qui viennent également...
Non, mais elle fait tourner la boutique.
Elle fait tourner la boutique.
Walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching around the corner. Welcome to the new world order. Sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight. But nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of time travel. Prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass. Got a one-way ticket.
La compagnie des auteurs sur France Culture. On a passé un peu plus longuement que d'habitude cette chanson. C'est The Ghost of Tom Joad par Bruce Springsteen. C'est pas pour rien, hein. C'est parce que cette chanson, elle est directement inspirée des Raisins de la Colère. C'est même une chanson qui réactualise en 1996, année où elle a été composée. L'analyse finalement que fait Steinbeck, Marie-Christine Lemardelin.
Oui, je trouve que c'est un très bel hommage à Steinbeck. Parce que justement, ça n'a rien de folklorique. Ça rend hommage à la profondeur de la détresse de tous ces gens qu'a décrit Steinbeck, avec beaucoup de sobriété. Puis en même temps, il y a l'harmonica qui donne le côté un peu western.
Un peu américain, je veux dire. Quand vous avez l'harmonica, vous avez Bruce Springsteen et vous avez les Raisins de la Colère, vous avez vraiment toute l'Amérique.
Absolument. Et je trouve que c'est vraiment... on ne peut pas faire mieux comme pour montrer que Les Raisins de la Colère est une œuvre populaire, au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il est rentré dans la culture populaire.
Mmh. Il y a aussi beaucoup de films qui ont aidé à ça.
Oui, oui. Alors le film le plus connu, c'est évidemment le film de John Ford, qui est un chef-d'œuvre. Vraiment, à chaque fois que je le vois, je suis éblouie par sa beauté. Il y a bien sûr des partis pris, et ça c'est tout à fait le droit d'un réalisateur de faire des choix, hein, je le dis bien. Il y a des choses qui sont différentes, par exemple la fin, bon, c'est bien connu, la fin du film de John Ford, c'est Ma Jo, la mère de la famille, qui dit « We are the people ». C'est une fin un peu triomphante. Parce qu'ils sont, dans le camion, on dirait une reine, et ils avancent. Donc c'est une fin vraiment optimiste, alors que le livre l'est beaucoup moins.
Alors pour revenir à des questions plus formelles, Marie-Christine Lemardelet, vous écrivez aussi que la division en chapitres disjoints a pour effet de brouiller la distinction entre le concret et l'abstrait, entre la silhouette et le personnage du roman. Et vous pensez en particulier au chapitre 12 qui s'ouvre sur une vision panoramique de l'Exode, sur cette idée du concret et de l'abstrait.
Oui, je pense que la discordance entre ces chapitres permet à Steinbeck d'ouvrir le champ visuel presque et de ne pas se restreindre à des gros plans sur une seule famille. Il veut montrer que c'est toute la famille humaine. Et d'ailleurs, c'est dans ces chapitres-là qui sont en focal élargi, je sais pas comment on dit,
en plan large.
En plan large, voilà. Que se passent des mouvements très importants pour l'humanité, je dirais. Par exemple, la notion de famille. Au début, c'est une famille nucléaire avec papa, maman, grand-père, grand-mère, etc., les enfants. Et petit à petit, les familles de pionniers se réunissent pour lutter contre l'adversité et deviennent ce qu'il appelle des « units », c'est-à-dire des... C'est difficile à traduire, mais peut-être des communautés. Et donc, la famille... C'est dans ces chapitres-là qu'elle s'agrandit et avec des notions de solidarité et de succès par rapport à cette présence terrible de ce qu'on appelle le progrès.
Et justement, tout à l'heure, vous expliquiez que Steinbeck était à la fin un écrivain de l'individu, mais là, dans Les raisins de la colère, il est l'écrivain de ses units, de ses communautés. Oui. C'est peut-être pas le cas de certains autres de ses romans, et en particulier dans À l'Est d'Éden, on est peut-être davantage sur l'individu. Alors, peut-être qu'on pourrait terminer cette émission en parlant un petit peu des autres romans de Steinbeck et dire en quoi la crise, la pauvreté y est également présente, mais peut-être d'une autre manière.
Dans À l'Est d'Éden, qui est aussi un très, très grand roman de Steinbeck, c'est vrai que on est plus concerné par cette rivalité fraternelle, comme si il y avait une espèce de déterminisme que la crise ne fait qu'accentuer.
Donc là, il descend vraiment au niveau du personnage.
Oui.
Et peut-être qu'il a écouté les critiques aussi qu'on lui a faites.
Peut-être, ou alors, je crois que ça correspond à son intérêt particulièrement profond pour l'humain, au sens de la morale. Par exemple, cette fameuse notion de Tim Schell, qui est « tu pourras te délivrer du mal ». C'est un peu abscon, on ne comprend pas très bien au début quand on le lit. Ça se termine, c'est le dernier mot du roman. On a l'impression qu'il veut faire une œuvre morale indispensable. Mmh. Et... c'est peut-être ça. Là, dans le cas de À l'Est d'Éden, la crise est plutôt un prétexte. C'est pas tellement. Enfin, je trouve que c'est pas tellement le sujet. C'est ouais. Moins le sujet que dans Les raisins de la colère.
Et dans Des souris et des hommes, on n'aura pas le temps de le développer. Mais est-ce que la crise, elle existe un tout petit peu aussi?
Bah, la crise, oui, puisque ce sont deux pauvres
journaliers,
individus, ouais. Journaliers. Oui, c'est le même genre
Donc c'est la pauvreté.
La pauvreté, oui, c'est ça, mais en gros plan, là, pour façon, le coup.
Et encore plus en gros plan.
Oui.
Merci beaucoup, Marie-Christine. Le Mardelet, c'est la fin de cette émission. Vous êtes venue nous parler des raisins de la colère, mais vous avez beaucoup d'autres choses à dire, et notamment sur les autres romans de Steinbeck. Je renvoie pour cela nos auditeurs au livre que vous avez publié dans la collection Voix américaine et qui s'appelle tout simplement John Steinbeck. Collection Voix américaine, dont j'ai omis de dire qu'elle était publiée aux éditions Belin.